C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
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 C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Nous sommes le mercredi 20 janvier 2021 et c'est l'heure du Canu Info. Avec ce soir des vaccins pour presque tout le monde, mais ça dépend quand même des endroits de la planète où vous êtes. On peut croire que c'est compliqué par ici, mais alors figurez-vous qu'il y a des endroits où c'est encore bien pire. Après, ma foi, le grand plan pour moderniser EDF, privatisation des profits, collectivisation des pertes, la classique. C'était aujourd'hui, c'était au Conseil des ministres, l'inscription de l'écologie dans la Constitution. Ça devrait être un référendum qui devrait nous amener tout ça. On va découvrir qu'il y a enfin des choses un peu enthousiasmantes dans la Grande République française. Et puis, ils étaient là il y a 2 ans dans les montagnes, les fachos, et ils reviennent hier et aujourd'hui dans d'autres montagnes, à une autre frontière, mais enfin c'est quand même bien toujours les mêmes têtes de cons. En Tunisie, grosse manif, et quand on dit grosse manif, c'est grosses émeutes, l'armée intervient. Et puis, en Inde, il y a toujours ces histoires de paysans qui sont en grève et qui ont maintenant un peu encerclé la capitale.
Et pour commencer, une petite brève.
Canu Info. Du mercredi.
Au même titre qu'en pleine pandémie, les hôpitaux sont démantelés à la même vitesse qu'auparavant, les industries pharmaceutiques ne voient pas de bonne raison de ne pas suivre cette pente de la rentabilité à tout prix. Donc pour achever de souffler tout le monde, Sanofi a annoncé lundi la suppression de 400 postes dévolus à la recherche et développement pharmaceutique. Sanofi, vous savez, c'est cette entreprise française qui est en train de mettre au point un vaccin français contre le Covid-19 qui, semble-t-il, a pris du retard et n'est pas encore au point, mais qui devrait donc permettre au laboratoire de se faire pas mal d'argent dans les semaines à venir et devrait particulièrement le surcharger de travail actuellement. Et si vraiment on se tournait les pouces chez Sanofi, il y avait des recettes de vaccins toutes prêtes chez Pfizer ou Moderna que leur chaîne de production aurait peut-être pu contribuer à produire. Mais tout de même, la concurrence, la propriété intellectuelle et, admettons-le, la sécurité d'avoir tout de même plusieurs vaccins au cas où, font que chez Sanofi, on s'occupe plutôt de continuer à mettre au point son propre bébé. À propos de surcharge, son concurrent, le laboratoire Pfizer, vient même d'annoncer du retard dans ses livraisons, ne pouvant pas respecter la cadence promise. Alors c'est vrai, pourquoi se presserait-il alors que les doses sont prévendues et que le prix des doses à venir ne saurait qu'augmenter au fil de leur raréfaction? Mais à son arrivée en septembre 2019, Paul Hudson, le nouveau patron, avait pourtant bien prévenu qu'il allait falloir recentrer le portefeuille, autrement dit revoir les priorités chez Sanofi. Et ce n'est pas une petite pandémie qui va le faire changer d'avis. Alors la réponse officielle de Sanofi, c'est que l'entreprise avait bien annoncé en juin dernier la suppression de 1700 postes en Europe, dont 1 millier en France. Rien que le déroulé logique d'un plan rationnel, en somme. Une ligne qui n'avait pourtant été ni présentée ni négociée avec les syndicats, qui ont découvert cette annonce en début de semaine. Hier, il est allaité 200 en grève sur le site de Marcy-l'Étoile, à côté de Lyon. En mai dernier, Macron déclarait « Il est nécessaire, je cite, que ce vaccin soit un bien public mondial extrait des lois du marché ». Ce dont c'est bel et bien extrait Sanofi, en revanche, ce sont des lois du travail.
«
Canu Info.
L'OMS semble tout juste découvrir en quoi consiste le capitalisme. En se penchant sur la campagne de vaccination mondiale qui privilégie largement les pays riches au détriment des plus pauvres, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS donc, a affirmé lundi, je cite, « Je dois être franc. Le monde est au bord d'un échec moral catastrophique, et le prix de cet échec sera payé par les vies et les moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde. » Il n'y a pas été de main morte puisqu'il a été jusqu'à critiquer les fabricants de vaccins et à qualifier d'égoïste l'attitude des pays riches. L'OMS, c'est quand même un organisme de régulation mondiale en matière de santé qui dépend de l'ONU et qui devrait bien pouvoir imposer quelques petites choses par-ci par-là aux entreprises de la santé quand le besoin se fait sentir. Mais les laboratoires qui ont mis sur pied les fameuses doses, que de nombreux pays administrent actuellement à leur population, ne sont pas contraints de soumettre leurs données à l'OMS et continuent à rechercher l'approbation réglementaire dans les États riches plutôt que d'accélérer un feu vert à l'échelle mondiale pour l'utilisation du vaccin. Pourtant, le COVAX devait tout résoudre. Le COVAX, c'est une coalition de pays et de fondations privées créée en avril qui doit amasser des fonds pour acheter les vaccins des pays les plus pauvres. Enfin, pas tous les vaccins, l'objectif étant de 2 milliards de doses, avec lesquelles on permet à ces pays de vacciner 20% de leur population, ce qui n'est de toute façon pas suffisant pour endiguer l'épidémie, et qui n'est pas près d'être atteint non plus, puisqu'il manque 4 milliards d'euros dans les caisses du COVAX. Et le directeur de l'OMS de constater, 39 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont déjà été administrées dans au moins 49 pays riches. Au même moment, ce sont seulement 25 doses qui ont été administrées dans un des pays aux revenus le plus bas. Pas 25 millions, pas 25 000, juste 25. Et de dénoncer les contournements des files d'attente entre pays, les accords particuliers avec les fabricants. Alors c'est bien beau de faire état de cet échec moral, complètement inattendu en lieu et place d'un élan de solidarité inter-État et inter-entreprise, et on aurait tort de croire que c'était justement le rôle de l'OMS d'anticiper et de réguler tout ça.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Vous avez entendu parler de cette histoire du grand projet du gouvernement pour EDF. En gros, l'idée, c'est que EDF, c'est un vieux truc, et les vieux trucs, déjà, la Startup Nation, elle aime pas trop. Et en plus, c'est un vieux truc public, alors là, c'est vraiment à dégager. Donc l'idée, c'est de découper EDF en trois parties différentes. Deux qui rapportent des sous et qu'on va privatiser, et une autre qui coûte des sous et qu'on va garder publique et financer avec la thune de l'État, la thune que l'État prend directement dans nos poches. Pour faire sympa, on leur a donné des noms de couleurs. Alors en premier, il y a EDF vert. Comme son nom l'indique, c'est les énergies renouvelables, le solaire, le machin, et c'est aussi la partie qui continuera d'assurer la distribution d'électricité. Alors les énergies renouvelables, il faut bien comprendre que c'est le secteur qui est en pleine expansion et que ça va rapporter du pognon et puis il va y avoir des subventions à droite et à gauche et tout ça. Et la partie distribution, c'est donc la partie qui est propriétaire du tiroir caisse, on voit ce que c'est. Donc ça, privatisé. Après, il y a EDF Azur, ça c'est les barrages hydroélectriques, on privatise aussi. Et puis il y a EDF Couleur des Gueulis, ils l'ont baptisé EDF Bleu, ça c'est le nucléaire. Mais pas que le nucléaire, c'est aussi la partie qui s'appelle RTE et qui s'occupe du réseau. Alors, déjà, entretenir le réseau, bien sûr, ça coûte des sous. Donc ça, on garde public. Et le nucléaire, ma foi, c'est on garde aussi public, mais le nucléaire, il faut bien comprendre que c'est d'abord et avant tout des coûts monstrueux. Entre les travaux pharaoniques pour garder en service des centrales qui sont vieilles et qui sont toutes pourries, le démantèlement des centrales qu'on finit quand même par arrêter à certains moments. Et alors ça, attention, hein, démanteler une centrale, c'est un boulot gigantesque. De toute façon, on ne sait pas exactement comment faire pour le faire correctement. Pour un exemple tout bête, hein, c'est une centrale, la centrale de Brennilis, qui a été arrêtée en 1985. On n'a toujours pas fini de la démanteler. Il y a encore le coût normal de fonctionnement des centrales, le fric incroyable mis pour la gestion, par ailleurs désastreuse, des déchets nucléaires qui donc seront toxiques pendant des centaines de milliers d'années. Et puis il y a aussi la thune pour les centrales en construction. Et là, c'est la grosse blague, bien sûr, avec l'EPR de Flamanville qui est toujours pas terminé. Pour l'instant, la durée de chantier et les coûts de construction ont déjà été multipliés par 4 et c'est sans doute pas fini. Alors, les salariés d'EDF sont pas très contents et contentes, mais heureusement, Barbara Pompili, ministre de l'écologie, les rassure. Deux points ouvrez les guillemets, celle qui déclare « Non, nous n'allons pas dépecer EDF. Non, nous n'allons pas non plus démanteler le groupe. Et oui, évidemment, nous préserverons le statut des salariés. » Et comment ne pas la croire ? C'est vrai que la parole de Barbara Pompili est extrêmement fiable. C'est elle, par exemple, qui avait, alors pour le coup, réellement poussé à l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes, vous savez, les pesticides qui tuent massivement les abeilles, et à l'époque de l'interdiction, c'est elle qui avait promis qu'il n'y aurait pas de dérogation. Bon, deux ans plus tard, c'est aussi elle qui annonçait la première dérogation, celle pour les cultivateurs de betteraves. Alors c'est vrai que les salariés d'EDF sont vénères, plus d'un quart étaient en grève hier contre ce projet, mais en réalité c'est pas qu'eux qui sont concernés, c'est aussi tout le monde, et le groupe Sortir du nucléaire de Touraine nous le rappelle dans un communiqué qui date d'il y a deux ou trois jours, et qui nous dit « L'énergie électrique doit rester entre les mains d'une structure publique pour permettre de produire, distribuer, développer en toute sûreté, sécurité et sobriété énergétique. » Le tout électrique, voiture, chauffage, est un mauvais pari sur l'avenir. L'éclatement d'EDF n'est pas une bonne réponse aux défis qui nous sont lancés. Au lieu de s'aventurer dans la construction de nouveaux EPR ou d'un porte-avions atomique de 10 milliards d'euros, il serait certainement plus judicieux d'assurer un avenir épargné du productivisme. Un vrai avenir pour nos enfants et pour les travailleurs qui voient leurs emplois attaqués, leur conquête sociale menacée. Du travail, il y en a. À condition de le partager, de ne pas le brader avec des contrats précaires et de créer les emplois dans le secteur des énergies renouvelables, mais du coup de ne pas les privatiser, solaire, éolien, hydraulique, géothermie, et dans le secteur du démantèlement des centrales.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Mais ne vous en faites pas, la planète va être sauvée dans tous les cas. Côté écologie, c'est bon, on assure. C'est ce matin que le Conseil des ministres a examiné la proposition de référendum pour inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution. Bon, on a déjà dit ici que le calcul politique est assez évident. Personne n'est contre l'environnement, très peu de gens seront assez énervés contre Macron pour se déplacer et aller voter non au référendum, bien sûr, évidemment. Donc le référendum, ma foi, ça va passer avec, si ça se trouve, 90% de oui. Aucun président n'a jamais réussi ça. Macron aura une sorte de très gros succès symbolique au moment de la présidentielle. C'est le truc qui lui manquait. Macron, il a un problème avec l'écologie. Son problème, c'est que c'est devenu un sujet dont les gens se soucient réellement pas mal. Et n'importe qui, une fois de temps en temps, ouvre un journal, ce n'importe qui a bien compris que notre cher président se voit sans cesse reprocher, et par un nombre incroyable de gens, d'organisations, d'institutions, de ne rien faire, ou quasiment rien, pour améliorer un peu la situation sur l'écologie d'une manière générale, que ça soit le réchauffement climatique ou que ça soit toutes les histoires de pollution diverses et variées. Mais bon, le pauvre Macron aussi, c'est que souvent, les mesures écolo, elles risquent de brider légèrement le capitalisme, peut-être l'industrie, des fois de réduire légèrement les dividendes des actionnaires. Alors, c'est sûr que Macron, avec tout ça, il a quand même du mal. Du coup, sa stratégie, qui est sa même stratégie depuis qu'il est élu, c'est de prendre des grands airs et des grands engagements symboliques. Alors ça peut être des trucs purement symboliques ou ça peut être des trucs, des engagements, des vrais engagements, mais pour dans 20 ans, dans 50 ans, des engagements européens comme ça, des engagements de n'importe quoi, sortie de ci, direction de ça, équilibre de blabla, mais toujours pour dans plusieurs dizaines d'années. Que des engagements qui en réalité ne l'engagent à rien du tout, lui ou ses ministres. Côté mesures concrètes, alors ma foi, il a bien essayé quoi, un peu de préserver quelques mètres carrés autour des maisons à la campagne où les agro-industriels auraient plus le droit d'épandre des pesticides vraiment hyper dangereux. Il a passé sa mesure, mais il n'a pas fallu tellement longtemps dès le premier confinement pour que ses préfets annulent la mesure dans plein de départements. Macron a aussi interdit les pailles en plastique et ça restera sans doute sa grosse réalisation dans le domaine de l'écologie. Enfin non, puisque sa grosse réalisation, donc, ça va être d'inscrire quelques mots dans la Constitution. un texte légal symbolique qui engage très exactement à, ma foi, à rien du tout. Enfin, vous allez me dire, c'est quand même une base légale. Et ça, une base légale, ça sert toujours à quelque chose. Ouais, ça sert à quelque chose. Alors, figurez-vous qu'on apprend aujourd'hui dans une étude publiée par la revue The Lancet Planetary Health. Ouais, excusez mon anglais, ça veut dire quelque chose comme la santé planétaire, The Lancet Santé Planétaire. Que Paris, la ville de Paris, est au quatrième rang des villes européennes où la mortalité due à l'exposition au dioxyde d'azote est la plus importante. Ah oui, vous allez me dire, aucun rapport avec les carottes des bases légales. Eh bien si, quand même, parce qu'il y a des normes européennes par exemple. En décembre, la Commission européenne avait donné 2 mois à la France pour prendre des mesures pour faire baisser ce niveau de pollution. Ça, c'est très exactement un truc légal. Le Conseil d'État est lui aussi saisi et lui aussi menace le gouvernement et lui intime de prendre des mesures là-dessus. Ça aussi, c'est une base légale. Mais alors bizarrement, quand on écoute Macron ou ses ministres, on entend bien plus parler de faire en grande pompe une sorte de nouvelle écriture de la loi, bien plus que de respecter déjà les lois qui sont en vigueur sur le sujet.
Radio Canu.
Canu Info. Du mercredi.
Les FAF sont de retour dans les montagnes. On se souvient de l'action des FAF de Génération Identitaire, il y a 2 ans au col de l'Échelle, à la frontière italienne dans les Alpes. Alors avec des 4x4, un hélico, parce que bon, ces gens-là sont peut-être des sortes de voyous, mais quand même le genre de voyous qui ont accès à la poche des bourges et pas accès parce qu'ils vont piquer dedans. Hein. Ils ont un accès bien volontiers de la part des bourges. En tout cas, c'est ça. Avec tout ce matériel, ces espèces de blaireaux avaient fait une balade en montagne pour essayer, alors à plusieurs dizaines comme ça de gros bonshommes baraqués, de trouver un quelconque gamin, peut-être à moitié mort de froid, qui aurait tenté illégalement de franchir la frontière, histoire de le livrer aux flics, après lui avoir sans doute un peu appris la vie. Tout ça au moment où toutes les assos qui bossent dans le coin prévenaient que le passage en fraude de cette frontière était potentiellement et parfois réellement mortel, en tout cas hyper dangereux. Généralement, les migrants qui passaient par le col de l'Échelle, c'était des gens déjà physiquement au bout du rouleau, déjà maltraités en Italie, qui essayaient de passer par la montagne dans la neige sans aucun des équipements adaptés. Comme il s'agit quand même d'assez hautes montagnes, c'est très dangereux. Même l'association des guides de haute montagne de quelle ville d'à côté là, avait interpellé le gouvernement pour qu'on mette en place des sauvetages, ce que le gouvernement s'était bien gardé de faire, évidemment. Alors nos valeureux héros de l'Europe blanche, de la France française, de la consanguinité raciale, eux, ma foi, ils n'étaient pas du tout dans la perspective comme celle des guides de haute montagne. Il ne s'agissait pas du tout de sauver des gens en danger, mais de les achever. Ce qui ressemblait effectivement aux valeurs de la République, qui à l'époque étaient défendues par exemple par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, un gars dont on sait qu'il a toujours été capable de trouver un pauvre qui se noie pour lui appuyer sur la tête. Bon, suite à cette histoire, les responsables du groupe Génération Identitaire, les responsables légaux, avaient quand même été poursuivis en justice pour avoir, figurez-vous, porté des uniformes de leur invention, certes, mais qui pouvaient entretenir la confusion avec des uniformes de flics. Bon, la justice, sans doute en reconnaissance du bon travail pour la défense des valeurs de l'écrasement des faibles, les a relaxés, et ça, c'était le 16 décembre dernier. Donc il y a à peine un mois, quoi. Du coup, les autres, ils se sentent plus pissés et ils viennent de remettre ça. Cette fois, ils ont changé de frontière et de montagne. C'est dans les Pyrénées, c'est à la frontière espagnole que ces espèces de guignols sont allés défendre l'Europe. Alors pas d'hélico cette fois, paraît-il à cause du Covid, ils ont expliqué. Mais si on regarde les photos, on voit toujours qu'il y a quand même un sacré paquet de fric derrière. Alors entre les gigantesques drapeaux Defend Europe, imprimé pour l'occasion, des sortes de vêtements de montagne qu'ils ont, mais c'est un uniforme, c'est des vêtements qui ont été fabriqués pour eux et qui sont aussi imprimés avec leur slogan, et c'est des vêtements tendance sportive de luxe, quoi. Et bon, s'il n'y a pas d'hélico, il y a quand même aussi toujours des 4x4. Alors la dernière fois, le discours était quand même extrêmement un discours de modération et de défense d'une sorte de légalisme républicain. Cette fois aussi presque, mais enfin quand même avec au moins un petit loupé, parce que pour expliquer leur mission et leur mode d'action, la porte-parole de Génération Identitaire, figurez-vous que leur porte-parole s'appelle Thaïs, c'est son prénom, Descuffon, alors D'apostrophe, hein. Ça c'est son nom de famille. Vous voyez, rien qu'avec le nom, on comprend déjà un peu d'où vient de la thune. C'est que c'est pas n'importe quel milieu social, ces blaireaux. Thaïs Descuffon explique que les militants vont repérer les passants qui ont des profils suspects et qui traîneront dans le coin de la frontière. Alors, à quoi on reconnaît un profil suspect? Eh ben, elle le précise, ma foi, bien volontiers, hein. Il s'agit de personnes qui voyagent seules, à pied, et qui sont d'origine afro-maghrébine. Alors vous allez me dire, ah bah oui, en fait, ces gens, ils font vraiment juste le travail des flics, et ils le font comme les flics. Alors c'est vrai, mais à la petite différence que les flics nient toujours faire des contrôles aux faciès. Théoriquement, la République, alors juste dans la théorie, hein, parce que dans la pratique, on sait que c'est pas vrai, mais en tout cas dans la théorie, la République est censée ne pas voir la couleur de peau des gens et ne pas en tenir compte. Bon bah là, au moins, là-dessus, c'est assumé, c'est revendiqué, c'est clair et net. Résultat, bien sûr, le préfet de, je sais plus ce que c'est, cette région, ce département, la présidente de la région, le président du conseil départemental, le député, tout ce monde-là s'est insurgé publiquement contre cette action et ils et elles ont tous demandé ou promis, selon les postes qu'ils ont, une réaction très ferme. Alors maintenant, on se demande comment tout ce beau monde, et comment les flics qui ne manqueront pas d'intervenir, bien sûr, puisqu'on parle de fermeté, comment tout ce beau monde va montrer cette fermeté. Pour ma part, je serais quand même assez prêt à parier qu'il n'y aura pas d'yeux crevés à coups de LBD chez les FAF, pas de mains arrachées à coups de grenade, pas de crâne de facho fendu à coups de matraque.
We passed upon the stairs. We spoke of walls in
Canu Info. Du mercredi.
Le 14 janvier dernier, c'était le 10e anniversaire de la révolution tunisienne, et c'est aussi ce jour-là qu'un berger, dont les moutons sont entrés dans la cour d'un bâtiment du gouvernorat local, a été agressé par un policier à Siliana. Depuis le 15 janvier, des affrontements entre les forces de l'ordre et des jeunes ont éclaté dans plusieurs quartiers de Tunis à la nuit tombée. Des heurts du même type ont eu lieu à Sfax, à Sousse, à Kasserine, à Bizerte ou encore à Siliana, justement où ce berger a été agressé. Le Monde raconte par exemple qu'à Ayet Adamen, peu après 20h lundi, des jeunes masqués ou cagoulés jetaient des pierres sur les blindés des forces de l'ordre en criant des slogans anti-police. La police qui ne manque pas de répliquer en laissant avancer les manifestants puis en chargeant à coups de canon à eau et de lacrymo. Pendant le week-end, 632 personnes ont été arrêtées, dont la majorité sont des mineurs de 14 ou 15 ans. L'armée a été déployée dans plusieurs gouvernorats et Amnesty International a dénoncé un usage excessif de la force et des arrestations abusives d'activistes ayant simplement partagé des messages de soutien aux manifestants. Lundi, la police a dispersé une manifestation pacifique en solidarité avec le mouvement et contre les violences Lundi, la police a dispersé une manifestation pacifique en solidarité avec le mouvement de protestation et contre les violences policières dans le centre-ville de Tunis. Selon deux manifestants interrogés par Amnesty, des policiers ont attaqué des manifestants pacifiques avec des matraques et des gaz lacrymogènes pour disperser les rassemblements. Des vidéos de violences policières avec des arrestations violentes circulent aussi. Chaque année, la révolution est fêtée par des manifestations, notamment le jour du départ de Ben Ali, le 14 janvier. Mais cette fois, le confinement de 4 jours imposé au moment du 10e anniversaire de la révolution a décuplé les frustrations, d'autant que chômage et pauvreté se sont encore accrus cette année en Tunisie. À Sidi Bouzid, un jeune chômeur s'est déjà immolé le 17 décembre dernier, jour de commémoration du geste de Mohamed Bouazizi. Pour expliquer cette colère, le spectre politique tunisien déploie des trésors d'imagination. Habir Moussi, présidente du parti Destourien Libre, anti-islamiste, dénonce une tentative de coup d'État. Il aurait été orchestré, accuse-t-elle, par des forces islamistes souterraines. De l'argent aurait été versé aux jeunes voyous pour faire trembler l'État sur ses bases et entraîner une destitution du président. En face, Rachid Kiari, député du parti Karama, membre de la coalition gouvernementale, lance des appels au président Kais Saied pour qu'il éclaircisse sa position sur les émeutes et se blanchisse ainsi des accusations de laisser-faire. Rien en revanche sur le peuple en souffrance, à la révolution amputée et privée de nombreuses ressources, notamment liées au tourisme, depuis de nombreux mois. Lundi, le président de la République Kais Saied s'est déplacé dans les quartiers de Minaya et Al-Intilaka pour s'adresser aux habitants. Je cite « Vous avez le droit d'exprimer votre opinion, mais je veux que vous donniez une leçon au monde que nous ne sommes pas ceux qui sortons la nuit pour voler », a-t-il déclaré. Un droit d'exprimer son opinion qui, comme on le constate, se traduit par de multiples arrestations.
Canu Info.
Mardi dernier, la Cour suprême indienne a pris la décision de suspendre les 3 lois agricoles litigieuses pendant 1 an et demi et de mettre en place un comité mixte pour discuter de ces lois. On en parlait justement en novembre à l'occasion des marches et blocages organisés par les paysans paysannes indiennes. Ce sont des lois qui permettent aux agriculteurs de vendre leurs produits à n'importe qui et pour n'importe quel prix, à la place du système préexistant où les achats étaient réglementés par l'État à des tarifs minimaux garantis. Cette proposition de suspension, et non d'abrogation pure et simple, n'a pas directement été acceptée par les syndicats paysans, qui ont annoncé qu'ils se prononceraient après consultation en interne, prévue pour le 22 janvier. Les organisations paysannes flairent le piège, faire mine de reculer pour mieux passer. « Cela va permettre de dénoncer nos manifestations », a ainsi réagi le compte Twitter du mouvement, baptisé « Kissa Necta Morka ». Pourquoi les agriculteurs protestent-ils alors que les lois ont été suspendues? Le comité de 4 membres, désigné par la Cour suprême pour faciliter le dialogue, prend d'ailleurs déjà l'eau. Icône de la lutte paysanne, Bhupinder Singh Mann en a démissionné jeudi 14 janvier en invoquant les appréhensions des syndicats agricoles et du public en général. Depuis novembre dernier, plus de 100 000 paysans et paysannes protestent contre ces lois et campent le long des autoroutes qui mènent à la capitale New Delhi. Derrière les barrages de police, les paysans sikhs de l'Haryana et ceux du Punjab mènent la lutte avec une organisation de longue haleine. En novembre, de nombreux paysans étaient venus avec de quoi tenir un siège, et d'autres qui n'ont pas pu se déplacer envoient des céréales depuis leur exploitation pour approvisionner les langars, des cuisines communautaires gratuites et ouvertes à toutes les religions. L'installation sur le long terme fait émerger des scènes de meetings, des dortoirs, des dispensaires médicaux, des laveries et même des librairies ou ateliers de peinture. Certains paysans ou paysannes entament une grève de la faim. Dans les États voisins, voilà 5 mois que les manifestations ont commencé. Au Pendjab, un fermier de 65 ans s'est récemment donné la mort, et dans l'Ariana, la police a fait usage du canon à eau pour repousser des manifestants du Parti du Congrès, principal parti d'opposition à Narendra Modi. En dépit de la décision de la Cour suprême, Rahul Gandhi, la figure du Parti du Congrès, a d'ailleurs manifesté dans la capitale vendredi 15. Malgré cette suspension, les paysans et paysannes ont décidé de maintenir leur manifestation le 26 janvier, le jour de la fête nationale et du traditionnel défilé militaire célébrant l'anniversaire de la Constitution. Ils appellent donc à en faire la journée de la révolution des paysans. Certains manifestants ont menacé de marcher sur la capitale, des intentions que les syndicats agricoles se sont empressés de réfuter. Certains craignent en effet que d'éventuelles violences puissent profiter au PJB, le parti de Narendra Modi, qui affirme que les fermiers sont manipulés par l'opposition et qu'ils sont violents. Pour plus d'infos, on vous invite à aller lire le reportage que le site Reporter a fait sur place.
Canu Info du mercredi.
Et pour terminer ces infos, un petit agenda avec demain, jeudi 21 janvier, une manifestation pour des conditions de vie étudiantes dignes qui partira à midi de la manufacture des tabacs à Lyon donc, et en direction du rectorat.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Plus rebelle des radios.